s'il est qui danse, s'il est qui chante, s'il est ma ta bonne humeur m'enchante.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné qui chante, l'émission qui aime autant la chanson que le cinéma et réciproquement. Aujourd'hui, notre programmatrice est un peu la Lady Chatterley de la musique de film. Du haut de la corniche Kennedy et à l'âge des possibles, elle ne cesse de mettre en musique le cœur des hommes pour le grand et le petit écran. Amie de Nadia et les hippopotames, elle fait surgir de ses compositions pour Cabrera, Leni, Ferrand, Esposito, Duringer, Tasma ou Devers, tout le lait de la tendresse humaine. Et pour les invités de mon père, comme pour ceux qui restent de l'autre côté de la mer, elle dit « Méfie-toi de l'eau qui dort ». Oui, aujourd'hui, nous accueillons la musicienne Béatrice Thirier, auteure à ce jour d'une quarantaine de musiques d'œuvres pour la télévision et pour le cinéma, en fiction comme en documentaire. Alors à elle, qui se réclame de Nino Rota, nous avons demandé de nous apporter ses chansons de films préférées et au cours de cette promenade, nous entendrons un certain Harry Belafonte. Un peu d'Easy Rider. Et une diva. Enchantée, Béatrice Thirier, bienvenue.
Laurent Delmas présente Ciné qui chante sur France Inter.
Bonjour Béatrice Thirier, bienvenue à Ciné qui chante. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à votre place ici dans cette émission qui s'intéresse à la musique, à la chanson et au cinéma parce que vous êtes l'une des compositrices importantes, l'un des compositeurs, on va dire comme ça, pas de problème de parité. Mais merci de venir avec cette belle liste éclectique, comme l'est d'ailleurs votre inspiration. Vous avez été capable de faire de la musique romantique comme du rap. C'est important, c'est ça au fond peut-être même la musique de film, non ? L'éclectisme avec un grand E.
C'est pour ça que je fais de la musique de film, j'ai compris ça récemment. C'est parce que je suis éclectique, voilà, dans mes goûts et dans mes choix. Et c'est vrai que j'arrivais pas en sortant du conservatoire, voilà, j'avais appris la musique savante, j'avais des œuvres devant moi, d'ailleurs j'en commets, j'ai écrit des opéras, des oratorios et des symphonies, mais je n'arrivais pas à choisir. Et en fait, c'est le cinéma, quand Pascal Ferrand a découvert ma personnalité et ma musique, qui m'a aidée à répondre à ce besoin profond que j'avais d'aimer toutes les musiques. Voilà, je suis une passionnée de musique avant d'être une compositrice. Mmh. Vous allez me dire, mais c'est normal Béatrice. Non, c'est pas normal parce que certains artistes n'aiment que leur œuvre. Et moi, j'ai vraiment les frissons et le cinéma m'a apporté beaucoup, beaucoup de frissons, beaucoup d'émotions musicales.
Alors pour commencer votre playlist, comme on dit en français, eh bien nous allons nous tourner vers Christophe Honoré en 2016 qui signait Les Malheurs de Sophie, très très brillante à mon sens, adaptation de la comtesse de Ségur, née Rostopchine, comme on pouvait dire sur les livres, avec effectivement cette adaptation réussie. L'auteur-compositeur, votre collègue, c'est Alex Baupin, qui a fait les deux chansons qu'on entend dans le film. L'une est chantée par Goldshifté Farahani, et puis l'autre, elle est chantée par Caroline Grant, qui est la petite Sophie dans le film, et on va tout de suite écouter un extrait du film et puis cette chanson qui s'appelle Tout tombe, dans une version qui n'est pas tout à fait la version du film. On y reviendra.
Comprends-tu, Sophie?
Pardon.
Non, cette fois tu es impardonnable, tu mérites le fouet. Qu'est-ce que je vais faire d'une petite fille pareille, hein?
Elle se repent, madame. Dis-nous, Sophie, que tu ne veux plus être une vilaine petite fille.
Je suis honteuse de t'avoir volé.
Tu es toujours honteuse de tes fautes, mais tu recommences toujours.
Je ne suis pas bonne comme Camille Mallette.
Alors il va falloir que je ferme toute ta clé dans la maison de peur que tu ne me voles.
Non, maman.
Je ne te fouetterai pas. Mais tu es punie pour 3 jours dans ta chambre. Tu n'auras que du pain et de le compre-pas. Je ne veux plus te voir. Je ne veux pas une petite menteuse comme fille.
Quand le tonnerre tonne, je crie plus fort que lui.
J'emmène ma bonne pour danser sous la pluie.
Et quand le vent souffle, pas de moufle à mes doigts.
Sophie, Sophie, il fait trop froid. Quand revient la neige, je me mets au balcon.
Je tire la langue pour goûter les flocons.
Quand le soleil tape, je mets pas de chapeau.
Sophie, Sophie, il fait trop choquant. Malheur, les malheurs tombent. Faire la bombe, la bombe, la bombe. Quand malheur, les malheurs tombent. Faire la bombe, la bombe, la bombe. Quand l'orage gronde, je garde pas la chambre.
Et je fais des ronds dans le soir de décembre.
La nuit me surprend, je chante dans le noir.
Sophie, Sophie, il est trop tard. Quand mon cœur se serre, je me laisse pas aller.
Je me laisse pas faire, j'essaie de pas pleurer.
Je me roule par terre, je me salis un peu.
Sophie, Sophie, c'est pas sérieux. J'écris plus fort que lui.
J'emmène ma bonne pour danser sous la pluie.
Et quand le vent souffle, pas de moufle à mes doigts.
Sophie, Sophie, il fait trop froid.
Quand
malheur, les malheurs tombent.
Cette réjouissante chanson écrite et composée par Alex Baupin, on l'entend, Béatrice Thirier, à la fin du film, sans la grande Sophie. Alors, on reconnaît là peut-être l'ironie, l'humour du couple Baupin-Honoré d'avoir demandé à la grande Sophie de chanter les malheurs de la petite Sophie. C'est pas mal.
C'était peut-être pour encourager les petites Sophies à devenir des grandes Sophies. Moi, j'ai pensé ça comme ça. Mais c'est vrai que ce film est magnifique. Hein. Il m'a redonné le plaisir de la lecture que j'avais eue enfant, puisque ma grand-mère, pendant l'heure de la sieste, nous demandait de lire des choses qu'on lui racontait après.
À vous aussi.
Et elle nous donnait Les Malheurs de Sophie, donc un livre, un recueil de bêtises, ce qui était quand même un clin d'œil. Et donc, je l'ai relu à mes quatre filles, puisque j'ai quatre filles, Adèle, Emma, Chloé et Tessa. Et avec Tessa, la dernière, on a découvert le film et on était enchantés parce qu'on avait l'impression de plonger, en fait, dans le livre avec une sensualité, avec une... voilà. Et puis... moi, j'aime beaucoup la filmographie de Christophe Honoré parce qu'il est très éclectique, il est très curieux, en fait. Et il nous offre une œuvre extrêmement variée. Et puis, sa complicité avec Alex Baupin est magnifique et sans tâche. Donc voilà, ça fait partie des duos que je préfère dans le cinéma français. Voilà.
Autant y venir tout de suite, puisque c'est un couple qui a produit, en quelque sorte, de la comédie musicale, des films vraiment enchantés à la demi. C'est un projet, c'est un rêve que vous avez de créer, de composer une comédie musicale, un film entièrement chanté, c'est quelque chose qui vous intéresserait ?
Ah oui, oui, ça m'intéresserait. Et c'est nouveau. Au départ, je trouvais ça intéressant, par exemple, de composer une musique pour une chanson pour un film. Ça m'est arrivé, et même d'en écrire les paroles, un peu sur le coin de la table, etc., pour sauver une séquence. Voilà. Et c'est, vous savez, moi, le cinéma me permet d'être moi-même. Il m'a ouvert les portes que une espèce de timidité, en fait. Donc, quand on est dans un film, je trouve qu'on est une espèce de surmoi, donc on arrive à tout faire. Et puis, au départ, la comédie musicale, ça fait un peu peur. Aujourd'hui, je me dis, oui, ça serait vraiment très, très bien.
Alors, je vous transporte en 1981 avec une sorte d'ovni cinématographique de l'époque qui s'appelle Diva de Jean-Jacques Benex. Et vous avez souhaité réécouter effectivement l'un des marqueurs de ce film. Hein, c'est effectivement sa BO parce qu'elle était chantée par une chanteuse classique avec un air très classique de Alfredo Catalani, écrit en 1892. L'opéra s'appelle La Wally et c'est l'air principal. C'est presque un tube, hein, on peut dire, d'une certaine manière. Allez, on réécoute tout de suite et le film et cette voix en or.
C'est elle ? C'est elle, Cynthia Hawkins ?
Ouais.
Qu'est-ce qu'elle est belle !
Tu trouves ?
Ouais, très belle. Oh ! T'es amoureux, Jules ?
Mais non, je suis pas amoureux.
Mais si.
Mais non, je suis pas amoureux. Tiens, attends, tu vas voir. Tu vas l'écouter, mets ça. C'est la Wali de Catalanie. Ça se passe dans les montagnes. C'est une femme, elle veut mourir. Elle a un chagrin d'amour. Et elle chante. Elle dit, je veux m'en aller au loin. Très loin. Là-bas où les nuages sont dorés. Là-bas où la neige est blanche. Sans doute ne me reverras-tu plus. Plus jamais. C'est tragique. Et à la fin, elle se jette dans un couloir d'avalanche.
Mais l'eau, dis donc, super!
Écoute, ça va commencer.
Écoutions un trop court extrait de l'opéra La Wali, opéra de Catalanie, interprété par Wilhelmina Wiggins Fernandez. Béatrice Thiriet, le recours au classique, à l'opéra dans un film, au fond, c'est pour dire quoi? C'est pour donner une ampleur aux images, c'est pour transporter le spectateur ailleurs. Qu'est-ce qu'on essaye de faire quand on a recours comme ça à des musiques dites classiques et dites anciennes?
Alors là, Dandiva, c'est écrit dans le scénario. C'est le plus magnifique. C'est pas un recours, c'est pas un artifice. C'est l'histoire. Peut-être qu'on cherche l'intemporalité, en fait. Voilà. Peut-être qu'on cherche à ouvrir ça.
Avec aussi la quasi-certitude de ressortir des tubes. Parce que ça a été un immense succès discographique. Hein. Alors que franchement, la Wally, jusqu'à présent, personne ne le réécoutait réellement. Là, on a eu quand même une montée en puissance de cette ère d'opéra, pas l'opéra lui-même, mais de cette ère d'opéra, qui montre la puissance d'ailleurs du cinéma par rapport à ce genre de choses.
Le cinéma, c'est un médium formidable. Donc oui, voilà, le chic là de Jean-Jacques Benex, ouais. C'est justement d'avoir été chercher ce compositeur vériste un peu oublié. Voilà. Et voilà, ça fait partie du génie. Hein, ça, et c'était un grand film. Hein, j'espère que les jeunes cinéastes et amoureux de cinéma le voient toujours. Hein.
Allez, tiens, on en écoute encore quelques notes. Nous évoquions en début d'émission le nom de Dominique Cabrera et on va revenir sur Dominique Cabrera et sur votre relation particulière, professionnelle avec cette cinéaste que nous aimons beaucoup, que nous avions d'ailleurs reçue à ce même micro l'été dernier pour lui demander, comme nous vous le demandons aujourd'hui, sa playlist de chansons de films préférées. Vous avez travaillé dès le début avec elle. C'est une collaboration de longue date.
Oui, sur l'autre côté de la mer.
En fait, son premier long métrage.
En fait, c'est Jacques Deschamps qui nous a présenté. Et Dominique était venu à la projection d'équipe de Méfie-toi de Loki d'or, qui était également le film de Jacques, son premier film aussi. Et puis, on s'est rencontrés. Et voilà, ça a été immédiat. C'est une grande cinéaste. J'aime beaucoup la personne aussi. Voilà, ça, c'est pas toujours évident en réalité. C'est des relations de travail. Et c'est 20 ans de complicité. C'est deux femmes qui se retrouvent régulièrement sur les films de Dominique, elle et moi. Et avec le temps qui avance, la vie qui avance, les œuvres qui avancent, la conception du cinéma ou de la musique qui avance, c'est précieux. C'est précieux dans une vie d'avoir ce genre de rapport. Voilà, et puis j'aime aussi beaucoup ces documentaires. Voilà, moi, Une poste à la Courneuve, c'est un des films que je préfère revoir et ça me tire à chaque fois les larmes. Voilà, c'est sa sensibilité, sa générosité, son regard, son intelligence. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a convaincue de longue date. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, donc on a fait une espèce de mini-rétrospective. Et pour elle, comme pour moi, c'est un voyage dans le temps. On a même fait un montage avec tous les extraits de musique et d'images. Et c'est une espèce de film de notre collaboration.
Bah vous m'en donnez l'occasion. On va écouter là un extrait de Nadia et l'Hippopotame, un film de Dominique Caprera, bien entendu, dont le moins qu'on puisse dire, d'ailleurs, il se déroule en novembre 1995. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a eu quelques résonances avec ce qui s'est passé en France en 2018 du côté des chemins de fer. On écoute tout de suite.
Tous ensemble. Bon les copains, je pense que tout le monde l'a vu hier à la télé. Hein. Juppé, visiblement, il est en train de céder là. Hein, donc normalement, pour nous, au moins, les conducteurs, l'âge de la retraite, ne devraient pas bouger. Hein ? Oui, mais non. Justement, ce que je veux vous dire, moi, les copains, là, c'est que nous, on doit faire très attention que tu ne puisses pas penser que ça y est, à la SNCF, c'est en train de se débloquer. Non, non. Faut surtout pas que ça s'effrite maintenant, là. Hein, qui est un petit flottement, et surtout pas dans les 24 ou les 48 heures, là. Hein, pour bien leur montrer que nous, sur les questions qu'on a posées, on veut des réponses écrites. Alors on va pas se contenter comme ça de petites promesses verbales ou de déclarations au niveau des médias. Non, certainement pas. Hein, c'est clair. Soit Juppé y signe, soit on continue la grève, les copains.
Voilà, alors c'était un scénario à l'époque signé Dominique Cabrera et Philippe Corcuff. On a l'impression que certains noms de responsables politiques pourraient être juste changés. Le discours, lui, resterait le même du côté des syndicalistes.
Hein, oui, il y a un petit parfum d'actualité.
Voilà, exactement. Alors, ce qui est très très intéressant, me semble-t-il, dans cet extrait, c'est que c'est pas une chanson en soi, mais on entend une chanson derrière, qui traverse d'ailleurs, je crois, carrément tout le film, chanté par Monica Passos, vous me démentez si je me trompe. Là, on a vraiment, alors, l'exemple idéal, presque, d'une collaboration totalement intense. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout un dialogue, puis de la chanson, puis à nouveau du dialogue, etc. Mais on a une imbrication de ce que l'on voit, de ce que l'on entend des dialogues et de ce que l'on entend en musique, qui nécessite alors une collaboration totale entre vous-même et Dominique Caprera.
Oui, bah l'histoire de la voix de Monica Passos, en fait, ça correspond dans le film à l'histoire de cette jeune femme qui cherche au milieu des grèves juste le père de son enfant. Voilà. Donc il y avait un rapport intime avec cette voix, solitaire. Et puis peut-être ça nous ramenait à la solitude de chacun, même dans le groupe. Donc voilà, moi je trouve ça émouvant quand je réécoute l'extrait, parce que c'est effectivement une AG, etc. Et il y a toujours cette voix, ce parfum d'intériorité, qui aussi relie les gens quand ils font quelque chose ensemble. Donc,
Mais qui a eu l'idée de vous, Dominique Caprera, comment est née quand même cette imbrication des choses, de la musique, des images, du son, des dialogues?
C'est moi, parce que on va dire que je lis le scénario, moi. Déjà, en plus, là, sur ce film-là, Dominique m'avait envoyé quelques lignes d'abord, et immédiatement, moi, ça chante dans ma tête, ou ça parle, ou ça orchestre. Voilà. Une fois, je crois que c'est pas Dominique, c'est Pascal Ferrand, après une projection, on était tous au café, et moi, j'étais dans mon coin. Et donc, je parlais pas, et quelqu'un était un peu interloqué, peut-être, de mon attitude, très concentré. Et Pascal a dit, mais t'inquiète pas, elle compose là. Vous savez, quand on rentre comme ça dans une équipe de cinéma, on partage aussi les moments. Sur le film de Dominique Cabrera, Nadia, je suis venue sur le tournage aussi. On a eu une histoire absolument incroyable, puisqu'il y avait une chanson qui devait passer à la radio et qui était muette pour pouvoir filmer en fait le dialogue entre Olivier Gourmet et Marilyn Cantot. Et donc la chanson n'était pas là. J'avais emmené la chanson à Olivier pour qu'il entende à peu près de quoi il s'agissait. Et en fait, dans la scène, il joue un personnage qui dit qu'il prend des cours de jazz. Donc il se cate et il dit son texte en même temps. Et donc avec Dominique, on était planqués derrière pour voilà, elle m'a emmené dans la voiture puisqu'on l'a voilà pour assister à la scène et pour éventuellement intervenir.
Alors autre collaboration avec Dominique Cabrera pour un film que je trouve merveilleux, très singulier. C'est Le lait de la tendresse humaine. Alors vous nous avez apporté un peu de musique qu'on avait eu du mal à trouver. On l'écoute tout de suite. On en reparle après.
Tomorrow. And tomorrow, and tomorrow creeps in this padded pace from day to day. To the last syllable of record time. Yesterdays have light and fools. The way to dust it down. Out, 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 Riff Kendo. Out, Riff Kendo. Life's but a walking shadow. A player that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more. It's a tale. It's a tale told by a needed full of sound. Shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more, no more. It's a tale told by an idiot whose sound and hearing.
Béatrice Thirier, vous êtes notre programmatrice musicale du jour. Eh bien, c'est vous qui allez faire la désannonce du titre qu'on vient d'entendre. Dites-nous, qui chante, quoi, comment, pourquoi ?
Alors, on vient d'entendre Monica Passos dans Lady Macbeth, en fait. Musique Béatrice Thirier. Et
texte.
Le texte, c'est un jeune auteur, c'est
oui,
William Shakespeare.
C'est ça.
Voilà. Donc en fait, bah ça fait partie de la vie des films, je trouve. C'est que on avait besoin donc d'écrire une chanson. Donc la première fois qu'on a utilisé cette chanson, c'est donc dans Retiens la nuit, et c'est Olivier Gourmet qui se cadre par-dessus, et qui rentre après son dialogue parlé. Donc excellent exercice de chanteur d'Olivier Gourmet, magnifique, c'est superbe. Et puis j'ai la chance de rencontrer Monica Passos, qui a un talent exceptionnel, une grande chanteuse brésilienne. italienne, une grande chanteuse de jazz. Donc voilà, j'écris on fait un faux quartet, je joue un peu de piano, etc. Et on se met dans une ambiance de fabriquer une musique comme si on faisait un disque, quoi. Évidemment, dans un budget qui est tout petit et avec très très peu de temps. Bon, ça c'est un peu l'histoire de la musique de film, mais bon, et surtout voilà. Donc, mais avec beaucoup d'énergie, le talent de Monica, les envies de faire quelque chose de beau. Et en réécoutant la musique, je me rends compte que Monica, tout à la fin, respire. Elle fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très Dominique Cabrera, vous savez. Dominique, quand elle parle, elle a une voix très douce et son inspire, elle s'en sert. Et ses comédiens, j'ai remarqué, s'en servent aussi. Donc voilà comment... c'est ça l'histoire de la musique de film. C'est un rapport d'altérité. Et en fait, tout le monde se met autour du projet qui est le film et autour du médium qui est le cinéaste, en l'occurrence la cinéaste, pour rentrer le plus possible dans sa sensibilité. Moi, quand j'écris pour Dominique, mais je deviens quelque part une autre Dominique. Et avec une résistance, évidemment, tout en restant moi-même, parce que de temps en temps, mon rôle, c'est aussi de dire non, ça, je ne peux pas le faire, ou non, il ne faut pas le faire. Et puis, mon rôle, c'est aussi d'être inspiré. Donc, vous voyez, Mais c'est sûr que là, on s'approche au plus près, en fait, d'une personne qui est en train de faire une œuvre. Donc, c'est assez chouette, hein, comme...
Vous faites une œuvre aussi. C'est l'occasion de rappeler, d'ailleurs, qu'un film a trois auteurs, son réalisateur, son scénariste et... le compositeur de la musique, on ne le sait pas assez. Juridiquement, c'est un statut identique. Voilà. Après, financièrement, c'est autre chose. On ne sait bien, mais ça donne quand même bien le là, sans jeu de mots, du statut de musicien de cinéma.
Bien sûr, bien sûr. De toute façon, on va dire que le budget, après, ça dépend aussi de l'économie du film lui-même. Là, on parle de films qui ont des économies très petites. Donc, à partir du moment où il n'y a pas d'argent nulle part, je ne vois pas pourquoi, tout à coup, il y en aurait plus pour la musique. Là, ça me semble impossible.
Allez, on se transporte, selon vos souhaits, en 1942, avec un film de Marcel Carné, Les Visiteurs du Soir. Et on se transporte même encore plus loin dans le temps, parce que c'est une sorte de Moyen-Âge un peu indéterminé hein, quant à la datation. Enfin, on est bien quand même dans un univers très poétique, très féerique, médiéval, avec des barons, des rois, etc. Et c'est effectivement le baron Hugues qui, lors d'une fête organisée pour les fiançailles de sa fille Anne, eh bien, deux joueurs de lutte, Gilles notamment, s'avancer vers l'assemblée qui est en train de dîner. Et à la demande du baron Hugues, on va chanter une chanson qui s'intitule « Démons et merveilles ». C'est votre choix. Nous l'écoutons tout de suite. Nous en reparlons ensuite.
Ma fille aimerait maintenant attendre de ces choses aimables qui vont au cœur, de ces belles histoires d'amour propres à faire rêver les âmes saintes. N'y a-t-il pas ici quelqu'un qui puisse chanter ?
Démons et merveilles, vents et marées, au loin déjà la mer s'est retirée. Et toi comme une algue, doucement caressée par le vent, dans les sables du lit, tu remues en rêvant. Démons et merveilles, vents et marées, au loin déjà la mer s'est retirée. Petites vagues sont restées. Démons et merveilles, vents et marées. Des petites vagues
C'est la compositrice Béatrice Thirier qui est notre invitée aujourd'hui et c'est à elle, et merci à elle, que l'on doit d'avoir entendu cette chanson « Démons et merveilles » interprétée par Jacques Janssen, jouée à l'écran par Alain Cuny. Hein, ça, c'est le miracle du cinéma, c'est qu'on peut avoir des gens qui chantent et des gens qui jouent et qui ne sont pas les mêmes. Les paroles sont de Jacques Prévert, ça c'est sûr, c'est avéré. La musique est de qui, Béatrice Thirier ?
La musique est de Maurice Thirier.
Qui n'est pas votre père ?
Pas du tout.
Disons-le une bonne fois pour toutes.
Enlevons
d'Internet cette fake news, ça n'est pas votre père. Il n'y a pas une dynastie pour l'instant Thirier en matière de musique de film. Mais après tout, peut-être que l'une de vos quatre filles prendra le relais. Et dans ces cas-là, on pourra réellement parler d'une dynastie. Mais pour l'instant, revenons à Maurice Thirier, qui est bien le compositeur et non Joseph Kosma. On peut dire en deux mots qu'il y a un problème un peu sur ce film de paternité musicale.
Pas sur Les Visiteurs du soir qu'il y a eu un problème,
c'est sur les enfants du paradis.
En fait, ils sont compositeurs tous les deux.
C'est vrai, voilà.
C'est Maurice Thirier qui est au générique et voilà. C'est un problème de période, de la guerre. Voilà.
Alors, Maurice Thirier, quand même, deux mots, c'est un très très grand compositeur de musique, peut-être un petit peu dans l'ombre par rapport à Cosma, par rapport à Jaubert, etc. Mais c'est quelqu'un qui a une filmographie incroyable, quelqu'un qui travaillait avec les plus grands.
Ah oui, c'est magnifique, c'est aussi Fanfan la Tulipe, ouais. Allons-y, Fanfan la Tulipe et tout ça. Maurice Thirier, ça pourrait plutôt être mon grand-père d'ailleurs. Ça m'a toujours assez vexée quand les gens me demandaient si c'était mon père, parce que c'est juste plutôt mon grand-père.
150 films, hein, d'après
oui,
sa
non, mais c'est un immense compositeur, un opéra, Oedipus Rex. Il avait monté des chorales à Paris aussi, des chœurs. Donc moi, j'ai rencontré des dames et des messieurs qui m'ont dit qu'ils avaient chanté enfant. Voilà. Et oui, bien sûr, c'est une grande. Il a beaucoup collaboré sur des films avec Van Paris, parce qu'il y avait beaucoup de films où on appelait deux compositeurs, parce qu'il y avait beaucoup de travail, il fallait aller très vite. Et à l'époque, on ne voyait le film qu'une fois.
C'est vrai ?
Oui.
Qu'on faisait ?
Eh bien, on notait, on travaillait vite, on notait, et on retournait et on travaillait à la table et on enregistrait avec la confiance de tout le monde. Ça, mais il y a beaucoup de choses qu'on faisait beaucoup plus rapidement avant que les ordinateurs et on avait totalement confiance en son cerveau et ça marche très bien aussi. Hein.
Qu'est-ce qui vous touche dans cette chanson « Démons et merveilles » ?
Bah, je trouve ça très, 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 très poétique. C'est la féerie, vous l'avez souligné, c'est... et puis c'est évidemment les paroles de Prévert, je trouve que c'est des collaborations tellement magnifiques et puis c'est ce film Alain Cuny, moi je l'ai rencontré quand j'étais enfant, en fait j'ai eu la chance de je faisais de l'équitation à l'époque et avec des amis, il était ami avec ces gens-là, donc j'ai eu la chance de monter à cheval avec lui.
Incroyable.
C'est extraordinaire parce que dans le film, effectivement, quand je regarde Les Visiteurs du soir et qu'il arrive comme
troubadour,
s'il est à cheval,
bien sûr.
Donc il montait très bien à cheval. Donc c'est un grand souvenir. Voilà, Pierre Arletty, tout ça. Enfin, c'est une époque où je trouve le cinéma était très libre, très créatif. D'ailleurs, c'est Yves Montand qui raconte une fois, alors là, il ne parle pas de Maurice Thirier, il parle de Joseph Kosma. Il dit, voilà, on était tous à table et Kosma se mettait au piano et il jouait et il chantait et il trouvait le thème du film en même temps, là, pendant qu'on riait, pendant qu'on buvait. Il y avait une espèce de... Voilà, c'est ce côté un peu artisanat du cinéma. Alors qu'on retrouve évidemment dans le cinéma d'auteur, parce qu'il y a beaucoup comme ça d'énergie, dans les petits budgets, on va dire, mais on faisait des très grands films comme ça aussi. Donc je veux dire, c'est ce côté extrêmement artistique, extrêmement proche, extrêmement toujours dans la facture, dans la fabrication, et dans l'énergie, dans l'utilisation du temps et du groupe, d'être ensemble. Moi, je trouve ça magnifique. Voilà. J'espère que il faut pas perdre trop ça. Aujourd'hui, on peut faire des séances d'enregistrement où il y a des pressions, où il y a beaucoup de choses, où tout le monde regarde, écoute. Quand je dis regarde, c'est que souvent, les gens qui ne connaissent rien en musique, quand ils viennent à un enregistrement, ils regardent juste les potentiomètres. Ou alors, ils écoutent les clics. Bon, personnellement, moi, j'enregistre jamais au clic. Je trouve que...
expliquez juste.
Alors, le clic, c'est que simplement, on met un métronome dans la tête des musiciens. Il faut savoir que les musiciens qui jouent sont des professionnels et que le sens du temps, du tempo, c'est juste la réalité de leur métier. Donc pourquoi leur mettre un temps qui peut finalement déranger leur musicalité et ils n'ont absolument aucun problème à jouer en mesure. Donc voilà, mais c'est une espèce de contrôle. Voilà. On veut toujours être dans le contrôle aujourd'hui et on pense que la technique va nous aider à ça. Alors que moi je pense qu'au contraire, et je n'ai pas du tout peur de l'intelligence artificielle ou de nouveaux développements, je pense qu'au contraire c'est à nous de nous servir de la technique pour trouver une nouvelle liberté. Voilà.
Allons maintenant à la rencontre de fantômes, parce que vous avez choisi un film de Tim Burton de 1988 avec un certain Harry Belafonte qui chante. Vous nous en parlez un petit peu de ce Beetlejuice de Tim Burton avec ce très très grand chanteur, évidemment, sur une musique bien sûr du, alors là aussi, hein, du très grand complice de Burton qui s'appelle Danny Elfman, qui est son compositeur presque attitré de film en film.
Écoutez, moi Tim Burton, je suis tellement touchée par sa sensibilité qui traverse tous ses films, voilà, par son sens de l'apparition, de la disparition, les fantômes, voilà, un côté toujours enfant triste, hein, qui garde voilà une âme d'enfant qui transporte partout et qui nous touche tous. Donc voilà, et puis il sait coupler ça. Bon, alors avec Danny Elfman est un super compositeur, il fait des très bonnes musiques, mais par exemple là avec une chanson qui est extrêmement joyeuse, où la musique arrive à faire péter les câbles de tout le monde pour parler comme un ado et donner enfin de la joie là où il n'y en a pas, où on n'est que dans la rigueur et dans le formalisme, quoi, voilà.
C'est donc l'adaptation d'une chanson populaire jamaïcaine, hein, je crois, à l'origine. Oui. Voilà. Donc vous avez dit quoi, on va péter les câbles, qu'est-ce qu'on va faire?
Pétons les câbles.
Allez, pétons les câbles.
I saw some ghosts.
J'ai vu des fantômes.
It's a little private joke that Lydia and I share.
C'est une petite plaisanterie qui circule entre nous.
Mais pas du tout.
C'est sa nouvelle fantaisie. Aujourd'hui, elle a essayé de me convaincre que la maison était hantée.
You know, I love them.
C'est ça, les enfants. Je les adore. Ils sont mignons.
Des fantômes.
Dans des draps de toute beauté.
Now, Lydia.
Alors, Lydia, parlez-nous un peu de ces fantômes.
Non, qu'on me laisse tranquille avec ça.
Oh, délire, on a le droit de s'amuser.
Je préférerais que nous parlions
de... Work all night and a drink of rum.
Daylight come and we want to go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and we want to go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and we want to go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Voilà, c'était notre séquence. Vous l'avez dans la tête pour la journée. Remerciez-nous. Eh ben, on vous dit merci, Béatrice Thirier. Vous nous disiez quand même un petit mot de plus sur cette chanson, sur ce choix, parce que vous aimez bien, en tous les cas, que l'idée que la musique c'est un apport dans le film, mais que ça dialogue avec d'autres choses dans le film.
Ah oui, c'est pas un clip, hein, une musique de film, c'est pas un clip. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand c'est mélangé avec les dialogues, avec les sons. Et c'est une chose qui me touche aussi quand j'amène une musique sur les images à la table de montage. On va la regarder d'abord comme ça, avec la musique. Et puis ensuite, ça va être transformé, ça va être mixé. Donc, ça va prendre sa place dans l'image. Et ça, c'est très important.
Second air classique de votre belle sélection, Riccardo Brocchi, je ne sais pas trop comment on dit, du film Farinelli de Gérard Corbiot en 1994. Et c'est évidemment... parce que tel est l'environnement du film, c'est évidemment un bel air classique. Et on vous remercie de ce nouveau choix. Nous écoutons tout de suite cet extrait du film Farinelli. Si votre service en cristal de baccarat était un peu ébréché, c'est la faute de notre programmatrice Béatrice Thirier pour cet extrait de Farinelli, dont je lis quand même que la voix de Castra, puisque c'est le sujet principal du film, cette voix a été obtenue par l'IRCAM. Est-ce que vous savez ça, en oui. mêlant une voix de contre-ténor et une voix de soprano?
Oui, absolument, parce que j'avais suivi l'expérience autour du film de Corbiot avec passion, parce que en fait, les castrats avaient 4 octaves. Donc, pour le faire, il a fallu mélanger 2 voix. Donc, c'est l'IRCAM qui a synthétisé 2 voix de chanteurs, et puis qui a fait un travail très précis après pour réinjecter, non seulement sur la tessiture, mais aussi sur les mots. C'est-à-dire qu'on a chanté, il fallait qu'on comprenne le texte aussi. Vous savez, Farinelli, c'est The Voice. Voilà, c'est l'époque baroque, c'est une histoire à Naples, un compositeur et puis son frère surdoué. Il faut savoir aussi que les castrats, ils mesuraient 1m80, ils étaient très très grands, donc ils avaient une cage thoracique super développée. Donc pour faire ces tenues qu'on appelle mezza voce, etc., où on tient une note, c'est de la performance physique, ils étaient bâtis, quoi. Voilà, c'était... Et puis... voilà, et puis moi, je vous savez, je suis absolument fan d'opéra. C'est un art vraiment très fusionnel. Donc là, le film le raconte très bien. On voit les gens applaudissent, mais il y a aussi des femmes qui tombent dans les pommes, qui se pâment, etc. Bon, et aussi le chanteur qui veut toujours performer, parce que c'est une époque où il y avait une liberté. Donc tous les ornements, toutes les fioritures, toutes les tenues, en fait, étaient pratiquement improvisé, enfin, on va dire. C'est-à-dire que c'est vraiment le chanteur qui tenait sa salle au bout de sa voix. Et c'est quand même magnifique, ça. Ça aussi, entendre un chanteur ou une chanteuse dans une salle opéra sans micro, ça fait partie des grandes performances qu'on peut faire. Et c'est une expérience géniale. Et l'opéra, c'est vraiment un art très simple. Alors ça, je le dis parce que j'ai beaucoup d'amis qui disent « Je peux aller à l'opéra, c'est un télo ». Pas du tout. L'opéra, c'est juste des histoires très, très simples. C'est juste des gens qui s'entretuent, qui s'aiment, qui qui meurt.
Je venge.
Et qui se venge et tout ça dans une beauté plastique, vraiment à vous remonter le moral. On en sort en général très, 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 très en forme.
Eh bien, éclectisme oblige, nous allons vers tout autre chose, vers la chanson du soldat Ripaton, interprétée par Michel Serrault, qui joue aussi du bugle et tout ça. C'est dans un film de Pierre Javot, Les enfants du pays. Alors, on va, pour le plaisir, tout de suite, effectivement, écouter ce sympathique cafetier qui accueille chez lui un groupe de tirailleurs sénégalais. C'est donc bien Michel Serrault face à un groupe de tirailleurs sénégalais et qui entonne cette chanson du soldat Ripaton.
En Belgique, notre valeureuse armée enchaîne les victoires. Jusqu'où va-t-on repousser l'ennemi? Jusqu'en Russie, jusqu'en Chine. Français, soyez tranquilles, notre beau pays est à l'abri.
Mon sergent, j'ai fait le tour des troupes. Et nous avons vraiment pris du retard avec cette histoire des bouteilles. Alors, je peux mettre les prisonniers au travail, Baïdam le surveillera. Et demain, même si nous n'avons aucune nouvelle, nous partons quand même en direction des combats.
Ah bah d'accord, on chargera la charrette avant que vous partiez, c'est tout. Bon, alors pour les consommations, hein, les gars, alors c'est 2 francs. Ah, c'est pas mon bar, il faut que je fasse tourner la boutique, hein, y a pas.
Comment ça, vous nous faites payer les consommations? Sarza!
Ah non, je plaisantais. Allez, c'est moi qui offre, allez-y! Allez, amenez-vous, vous, allez, les verres! Allez!
Du soldat Ripaton!
Écoutez! Ah, Ripaton! Oh! Papa!
Le soldat vit! Ripaton, le soldat vit. Ripaton, soldat est à la guerre pour chasser les teutons. Il était beau et fier en habit militaire. Le soldat vit avec son ripaton.
Sergent, il joue la trompette, hein?
Le soldat ripaton.
Quel plaisir, Béatrice Thirier. Et ce plaisir, nous vous le devons. Paroles et musique, racontez-nous un peu ça. Comment on fait pour créer une chanson qui sera reprise par Michel Serrault?
Bah, c'est très drôle, c'est dans l'histoire du film, donc là la scène est écrite et il faut écrire une chanson de comique troupier. Donc c'est moi qui écris les paroles et les musiques et puis après il faut rencontrer Michel Serrault qui joue du bugle, ça je le sais, tout le monde le sait. Il faut aller choisir un bugle avec lui rue de Rome, où il fait chez Feeling, où il fait juste un sketch, c'est-à-dire que toute la boutique est écroulée de rire. Et puis après, bah, faut travailler avec lui et puis là, bah, il se lâche, il est dans le tournage et il joue du bugle et ben voilà. Aujourd'hui, je suis hyper émue avec William Nadilam, Jacques Ido, Cédric Ido, et qui entendent tous la chanson derrière. Voilà, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de rigolade, mais beaucoup de travail, beaucoup de rigueur en fait pour que tout ça marche. Hein. Et c'est un beau souvenir.
Vous avez écrit d'autres paroles dans votre vie ou c'était la première et unique fois?
Non, j'ai écrit plein de paroles pour les chansons de films. Hein. J'ai écrit une chanson qui a été interprétée par Liane Folie dans Le passage des clandestins d'Agosti Villaranga et puis une autre aussi qui a été chantée par Elisabeth Vienner. Non, en général j'aime bien écrire les paroles, d'ailleurs j'écris les livrets de mes opéras, donc c'est quelque chose que j'aime bien parce que ça me permet je fais les deux à la fois, ça va un peu plus vite et puis j'aime bien ça, voilà. C'est
donc
le soldat Ripaton s'en allait à la guerre.
Ben oui, donc on peut rêver d'une comédie musicale réalisée par Dominique Cabrera, paroles et musique de Béatrice Thirier.
Ça serait chouette.
C'est ça qu'il faut faire.
Ça serait chouette.
C'est un appel à producteur.
Voilà.
On le fait officiellement.
Oui, d'accord.
Hein, mais on sera crédité au générique comme inspirateur principal.
Absolument. Hein,
merci
absolument.
Beaucoup.
C'est je pense qu'il y aura même une scène ici où on viendra vous faire chanter.
Ah non, ça va. Non, je pense pas.
Mais vous
pas
serez doublé. Regardez.
Voilà, comme chez Jacques Demy. Absolument, tout à fait. Allez, passons à toute autre chose avec un film, et quel film, de Dennis Hopper, Easy Rider, la chanson Born to be Wild. On écoute tout de suite un court extrait du film et puis cette chanson sur laquelle on reviendra.
Well, they're not scared of you. They're scared of what?
C'est pas de vous qu'ils ont peur.
de ce que tout ça représente pour eux.
Oh, we represent to them.
Tu sais, tout ce qu'on représente pour eux, c'est des types qui ont besoin d'aller chez le coiffeur.
Oh non. Non, ce que vous représentez pour eux, c'est la liberté.
Et qu'est-ce qu'ils ont contre la liberté? Il n'y a que ça qui compte.
Ah mais oui, c'est vrai, ça, je suis bien de ton avis, il n'y a que ça qui compte. Mais en parler et être libre, c'est deux choses différentes. Très très dur d'être libre, quoi, moi, quand on est un produit acheté et revendu au marché. N'essaie jamais de leur apprendre qu'ils ne sont pas libres, parce qu'ils vont immédiatement se mettre à assassiner pour te prouver seulement qu'ils savent ce que c'est. Alors, ils te font des grands discours dans lesquels ils te parleront de la liberté individuelle. Seulement, s'ils rencontrent un type qui est vraiment libre, ça leur fout la trouille.
Non, alors faut pas leur foutre la trouille.
Non. Non, parce qu'ils deviennent dangereux.
It makes them dangerous.
Sur la playlist de notre invitée du jour, Béatrice Thirier, il y avait ce Born to be Wild du groupe canadien Steppenwolf. C'est une musique de biker, mais 68, évidemment, 68 en tous les cas. Et c'est aussi apparemment la première chanson où le mot heavy metal apparaît.
Ah bon?
Ah oui, et les spécialistes du genre, Philippe Manœuvre en tête certainement, oui, attribuent à cette chanson l'origine de ce courant musical. Voilà, à cause de cette mention.
Super, hein. Moi je trouve ça magnifique. Enfin, bon, c'est une chanson mythique, hein. Elle nous réveille tous, elle nous éveille tous. On a tous l'impression de faire de la moto et d'être devenu un biker et d'être libre, d'être enfin libre.
Sur les routes de France en août, c'est bien.
Voilà. Et d'être un peu sauvage aussi, oui bien sûr. Ça fait partie des grands moments, hein. On parlait tout à l'heure de qu'est-ce que le cinéma et la musique peuvent faire ensemble, ça c'est une grande démonstration quand même.
Absolument. Le temps passe trop vite avec vous, Béatrice Thirier. Alors, nous n'aurons pas le temps de passer du Sophia Loren, du Comme de Bien Entendu, du Cabaret, de Minelli, etc., du Georges Vamparis. On n'aura pas le temps, hélas. Merci, Béatrice Thirier, d'avoir joué le jeu de la programmation musicale. Et vous participerez en octobre prochain au beau festival de cinéma Arte et Marais à Bastia. Cette émission a été préparée, refrains et couplets par Margot Page, Mathilde Verfailly avec Juliette Beza. Elle a été réalisée par David Jakubowiez avec aux manettes de notre studio Clément Berman. Et merci enfin à notre programmateur musical Thierry Farinelli Dupin. Allez, on reste en contact via le podcast et franceinter.fr bien évidemment. Après les infos, vous retrouvez Nagui, sa bande et son best-of. Et puis rendez-vous demain, même lieu, même heure, avec cet invité, Indice.
J'ai souvent dit taverner sur une contrebasse, sauter sur une trompette et doyon sur un saxophone.
À demain.